Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, il est 6h avant minuit, merci d'écouter la quotidienne de Syllab. Je voulais vous parler un peu de beauté et de magie, car oui, je n'en peux plus des guerres, des saluts nazis, des autodafés. Et si on met de côté les humains quelques temps, notre monde est beau et magique. J'en veux pour preuve la parade des planètes. Vous savez ce que c'est, les filles ?
Non.
La parade des planètes, c'est comme ça qu'on appelle un phénomène rare. La réunion de 7 planètes, donc Mars, Jupiter, Uranus, Vénus, Neptune, Mercure et Saturne, dans un même ciel. Elles seront toutes visibles ce soir, demain et jeudi, juste avant le coucher du soleil. 4 d'entre elles, Mercure, Vénus, Jupiter et Mars, à l'œil nu, et 3 autres, Saturne, Uranus et Neptune, au télescope, si vous avez la chance d'en avoir un. Selon Edward Bloomer, astronome à l'Observatoire Royal de Greenwich, vous allez avoir seulement quelques minutes avant le coucher du soleil pour les voir toutes, avant qu'elles ne disparaissent derrière l'horizon. Après ça, vous serez encore capable de bien observer Vénus, Jupiter et Mars sur un temps un peu plus long. Pour de nouveau observer les astres tous ensemble, il faudra patienter jusqu'en 2040. De quoi nous rappeler qu'au milieu de l'immense beauté de l'univers, notre si moche actualité est bien petite. Eva nous en dit quand même quelques mots dans son flash.
De Cali en Colombie à Rome en Italie, la COP16 sur la biodiversité reprend son cours, toujours au soleil. Aujourd'hui, jusqu'à jeudi prochain, les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique se retrouvent à nouveau après avoir laissé en plan les négociations de novembre dernier. Cette fois, on espère, c'est la bonne, il faut conclure ces 3 jours de prolongation par un accord sur les financements pour arriver à l'objectif fixé en 2022 lors de la COP15 et stopper la destruction de la nature d'ici 2030. La difficulté d'une collaboration financière entre pays riches et en développement est au cœur des débats. Car oui, le problème des financements revient sur la question d'une collaboration financière entre ces pays, ce qui n'était pas gagné début novembre. Mais un nouveau texte a été publié vendredi dernier par la présidente de la COP16, qui cherche à naviguer entre ces lignes rouges, de chaque bloc de pays, comme l'a analysé Alexander Rankovic. Après un premier échec pour l'environnement fin 2024, avec donc la COP16, un deuxième obstacle se présente cette fois pour l'ONG environnementale internationale Greenpeace. La multinationale américaine Energy Transfer leur colle un procès inflammable qui pourrait faire tomber en cendres le bureau américain de l'ONG. 300 millions de dollars, voilà la somme que demande le groupe aux défenseurs de l'environnement pour diffamation et incitation à la violence. En cause, des manifestations datant de 2016 à 2017 pour empêcher la construction d'un tronçon de l'oléoduc de 1800 km entre le Dakota du Nord et l'Illinois. Et la place de l'ONG là-dedans, celle de l'instigatrice de la mobilisation. En tout cas, c'est ce que rapporte le procès de l'Energy Transfer. Nous étions des alliés, en aucun cas les organisateurs, assure Sushma Sushma Raman de Greenpeace US et craint que le groupe ne veuille, je cite, les réduire au silence en les asphyxiant financièrement et potentiellement engendrer la fermeture du bureau de Greenpeace USA. Hier, 3 ans jour pour jour, après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a été reçu à la Maison Blanche, notamment pour parler de la situation ukrainienne. Aglaé nous en dit plus.
Nous nous sommes compris et notre volonté est la même, la paix le plus vite possible. Une paix solide et durable pour tout le monde. Voilà ce qu'a exprimé Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse avec le président américain. Les poignées de main chaleureuses et les grands sourires lors de la rencontre ont été nombreux. Pourtant, entre les deux chefs d'État, certains désaccords persistent. En effet, Emmanuel Macron a tenté de replacer l'Europe dans les négociations entre Washington et Moscou, qui étaient depuis plusieurs semaines évincées. Emmanuel Macron a aussi exprimé la nécessité que les troupes européennes, si elles sont envoyées en Ukraine une fois la paix conclue, soient protégées par les États-Unis. Emmanuel Macron est cependant parti sans en avoir la promesse. Donald Trump est resté très flou, mais il a assuré que Vladimir Poutine serait d'accord avec le déploiement futur des troupes européennes en Ukraine. Aussi, si Emmanuel Macron considère qu'un accord de paix peut découler des négociations entamées par les États-Unis, il a déclaré à plusieurs reprises que cette paix ne peut signifier la capitulation de l'Ukraine et je cite « Personne n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer ». Et effectivement, depuis plusieurs semaines, une menace pèse sur l'Ukraine, un accord de paix trop favorable à la Russie.
Mais Aglaé, comment se peut-il qu'un accord de paix soit favorable à la Russie, le pays envahisseur ?
Eh bien car depuis son investiture, Donald Trump s'est nettement éloigné de Volodymyr Zelensky, excepté lorsqu'il s'agit de parler d'un futur accord lui permettant d'accéder aux ressources minières de l'Ukraine. À ce propos, le président ukrainien devrait faire une visite à Donald Trump cette semaine ou la suivante, selon ce dernier. Et cela, bien que le chef d'État américain ait tenu des déclarations provocantes à son égard. Mercredi 19 février, sur son réseau social Truth Social, il a qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Ajoutant, je cite, « Il devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays ». Hier, pendant la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, Hugo Travers, rédacteur en chef de son média Hugo Décrypte, a demandé au président américain « Vous avez appelé Zelensky un dictateur. Utiliseriez-vous le même mot concernant Poutine ?» Donald Trump a répondu de manière très floue, sans jamais répondre à la question. De plus, hier, il a fait un pas de plus vers Vladimir Poutine lors d'un vote à l'ONU. En effet, les États-Unis ont voté contre une résolution de l'Europe réaffirmant le soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale. Ce qui n'a pas empêché cette résolution d'être finalement adoptée à 93 voix pour, 18 contre et 65 abstentions sur 193 États membres. De leur côté, les États-Unis ont proposé une deuxième résolution ne mentionnant pas l'intégrité territoriale ukrainienne. Après de multiples amendements pointant clairement du doigt la Russie pour ce conflit, elle aussi a finalement été adoptée.
Merci Aglaé. Des nouvelles informations sont à nouveau tombées sur l'auteur présumé de l'attentat de Mulhouse de samedi dernier qui a fait un mort et des blessés graves. Selon France Inter, le suspect numéro 1, Brahim A, serait inscrit sur une liste de 30 personnes à reconduire en priorité en Algérie. Sur cette liste, des Algériens et Algériennes en situation irrégulière et jugés particulièrement dangereux. Depuis l'ouverture de l'enquête par le parquet national antiterroriste, l'homme de 37 ans a déjà été mis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Mais l'Algérie a refusé les dernières demandes françaises de rapatriement de son ressortissant qui est arrivé illégalement en France en 2014, selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Un autre homme politique français fait parler de lui aujourd'hui, faisons un au revoir à Jordan Bardella. Enfin, pas vraiment, le patron du RN reste patron du RN, mais selon le conseil régional d'Île-de-France à France Info aujourd'hui, Jordan Bardella a démissionné de son mandat de conseiller à cette même institution il y a une quinzaine de jours environ. Il y était conseiller régional depuis 2015 et avait été réélu en 2021. Mais depuis 2019, le leader français de l'extrême droite était aussi député européen et ne pouvait cumuler ses indemnités à la région avec celle-ci. L'institution a aussi expliqué que son taux d'absentéisme ces deux dernières années était de 73% pour 2023 et de l'ordre de 90% en 2024. Colette Lévesque, la seconde tête sur la liste RN en Seine-Saint-Denis, devrait le remplacer selon l'AFP. Cette fois, on s'intéresse à une tête méconnue, un homme de 24 ans rôdant place Sainte-Anne hier après-midi, jamais croisé auparavant selon un des gérants du bar de cette même place, a agressé un client en terrasse. Plus tard dans la soirée, il entend une table tomber sur la terrasse et trouve un de ses clients la main en sang. Avec des collègues de bar voisins, le patron poursuit l'homme vers la bouche de métro de la place Rennaise. Le groupe l'immobilise jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Bilan de la situation, la victime blessée à la main a été conduite à l'hôpital et l'agresseur a lui été amené au commissariat de police. Vendredi dernier, Aglaé s'est levée tôt, très tôt, pour assister au spectacle immersif, immersif 1 km au nord de Raphaël Mars qui avait lieu au tambour.
Je te cherche. Je crois t'apercevoir à chaque détour du sentier. À chaque carrefour, je me demande quelle route tu as pris.
6h30. À peine sorti du monde des songes, Raphaël Mars nous emmène dans son univers, mêlant folk et électro. Sur scène, l'artiste, sa cagoule boule de disco, sa harpe, sa mandoline et des écrans de lumière imageant étoiles ou paysages. Joanne étudie les arts du spectacle.
Moi, j'ai vraiment adoré. C'était pas la première fois que je voyais le spectacle. Et c'était la première fois que je voyais un spectacle aussi tôt. Et c'est ça aussi qui m'a décidé. Bon, déjà, le spectacle, ça m'a décidé parce que je l'adore. Mais en plus, je me suis dit, 6h30, on n'aura pas forcément l'occasion de voir un spectacle à 6h30 tout le temps. Je me dis, c'est à faire. Franchement, c'est à faire. Et en plus, j'ai réussi à convaincre mes amis. Donc, c'est top.
Raphaël Mars, l'artiste.
Je suis ravi parce que déjà, premièrement, des gens sont venus, ont bravé le froid et l'heure matinale pour venir et ça, c'était vraiment super. En fait, ce spectacle, il est pensé comme un voyage musical. Donc, il y a cet aspect où je compte et je raconte une histoire et les chansons qui s'alternent. Ce texte est très poétique, très onirique, pas forcément très concret. Du coup, j'ai écrit ce texte-là et je cherche toujours un peu à le réajuster pour vraiment trouver bien l'endroit du récit où j'ai envie d'emmener les gens, quoi.
Merci Aglaé.
Bravo de t'être levée aussi tôt.
Ah c'est ouais, vrai, mais ça en valait la peine.
Et si vous aussi vous souhaitez plonger dans l'univers de Raphaël Mars, sachez que le spectacle est transportable et a aussi vocation à être mis en scène dans les appartements ou dans les petites salles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire un mail à l'adresse contact@cievesta.com. Après une immersion dans un monde sensoriel, et ben on continue dans un monde sensoriel avec la conférence sur la communication entre les êtres vivants à l'auditorium de l'espace des sciences des champs libres. Nommée le dialogue chimique de la nature, source de bio-inspiration, la conférence présente le monde animal et végétal sous sa forme sensorielle avec un focus sur les sons, les gestes, le contact, mais surtout la chimie. En effet, c'est Swazik Prado, chimiste spécialiste de la médiation entre les organismes en milieu terrestre et marin et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui sera la médiatrice de cette soirée gratuite à partir de 20h30 ce soir.
Merci Eva, c'est l'heure de l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Un foulard blanc, une tenue rouge, bleu et jaune. Ce soir, nous accueillons Mamilove Sarambé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chanteuse et créatrice de Tilibora, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et ce soir, donc, vous venez nous présenter le festival Tilibora. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous expliquer en quoi ça consiste ?
Tout à fait, avec joie. Merci pour l'invitation. Donc, Tilibora porte également le nom de l'association qui s'appelle aussi Tilibora et cela signifie « il fait beau ». Et donc c'est une association qui existe depuis 2012, mais le festival existe depuis 2013. C'est un festival qui s'intéresse au quartier Ville-Jean. Pourquoi Ville-Jean ? Tout simplement parce qu'il y a une richesse au niveau de la mixité culturelle. Et aussi parce qu'à Ville-Jean, notre association intervient énormément auprès des écoles, auprès de la maison de retraite, auprès des jeunes à la fac et auprès des familles, les habitants. Donc c'est un quartier qui s'intéresse aussi à notre association. Quand on fait des activités, les habitants sont toujours présents. Donc, Tidi Bora, c'est tout ça. Voilà.
Beaucoup de choses, donc, quand même. Et d'ailleurs, vous avez parlé des maisons de retraite, enfin de la maison de retraite et des écoles. Et il me semble, enfin donc le festival a commencé hier, le 24 février, et vous avez commencé par des animations, c'est ça, dans deux écoles ?
C'est ça, le festival c'est toujours au moins une semaine. Donc cette année, c'est notre 10e et dernière édition. Donc ça a démarré hier, aujourd'hui et demain, ça sera les écoles. On a fait aussi la maison de retraite aujourd'hui même. Nous avons eu l'honneur d'accueillir l'école Jean Moulin qui était aussi présente et aussi des étudiants de Rennes 2 et du campus de la Harpe qui étaient également là et qui ont chanté et dansé avec nous. Et tout cela a fait du bien à nos personnes âgées. Et jeudi, nous allons entamer notre premier temps fort avec les étudiants pour la soirée slam Enzik qui aura lieu à la ferme de la Harpe. Il y aura beaucoup de slam avec l'association Slam Connexion. Il y aura beaucoup de musique, chef d'orchestre, club jazz de la ferme de la Harpe avec des invités comme le Burkinabé Drissa Dambélé, comme le musicien marocain Maska. Des danseurs comme Yuri Pop, danse afro-urbaine, ou comme aussi Mbarou Ndiaye, danse afro-contemporaine du Sénégal. Donc on va voyager autour des textes, de la musique et beaucoup de danse. Notre second temps fort va avoir lieu le samedi 1er mars. À partir de 15h, ça sera le village africain avec plusieurs associations de Villejean qui vont occuper le hall de la maison de quartier avec des stands d'artisanat et de produits du coin, présenter aussi leur activité. Il y aura pas mal d'animations. Et à partir de 19h, on va ouvrir les portes du Festival Tidi Bora pour les concerts musique du monde et découverte de repas africains. Cette année, nous sommes sur le thème du pays gallo, parce que pour clôturer quand même sur nos 10 ans, on ne pouvait pas passer à côté du pays gallo. Donc on va faire un stage de danse et percussion africaine le dimanche 2 à partir de 14h, suivi d'un fest-day. Donc il y aura des concerts de musique bretonne pour les amateurs. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est un fest des ou des, je
alors,
ne sais pas
donc,
comment on prononce.
Je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps parce que je suis toute nouvelle dans le domaine breton, parce que j'ai commencé à participer à ce style de musique et de danse, ça fait moins d'un an, parce que j'invitais et j'organisais beaucoup de groupes, mais ça fait moins d'un an qu'en tant qu'artiste, j'ai commencé à écrire et chanter dans ce style-là. Donc j'ai découvert, on va dire, le FESD récemment, parce que je voulais à la base organiser en FESNOZ. Et comme il n'y avait pas de créneau, et on m'a dit, mais au lieu d'annuler, fais un FESD. Je dis, mais c'est quoi un fest day? Ah ben, c'est comme un fest noz, mais en journée. Je dis, bon, sympa. Et comme ça tombe un dimanche, bon, on va faire donc un fest day. On va danser et chanter comme si c'était la nuit. Et on va finir tôt. Voilà, c'est ça un fest day. Commencer tôt et finir tôt.
Et vous attendez beaucoup de monde pour ces jours de festivités?
J'espère bien que pour les 10 ans, les gens vont daigner sortir, parce que sinon je vais faire à l'africaine, j'irai les chercher. J'espère bien que voilà, on aura du monde. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit au début, Tidi Bora, on touche pas mal de structure. Donc, quand je parle des écoles, des personnes âgées, donc ça fait qu'à la fin de la semaine, bon, on touche entre 500 et 700 personnes. Parce que déjà, quand on prend une classe, bon, et qu'on a une vingtaine et qu'on a 4 ou 5 classes à animer. Ça fait déjà du monde. Donc, c'est sur l'ensemble des animations qu'on a du monde. Mais sur les temps forts, ben, j'espère de tout cœur que les gens, comme chaque année, vont sortir pour porter l'association et ses projets. Et surtout pour clôturer en beauté l'édition avec nous. Donc oui, je pense qu'il y aura du monde. Et surtout, la programmation est top sur toutes les soirées, donc il n'y a pas de raison. Mais toujours est-il que nous sommes une association et quand on organise, on est inquiète. Donc bah, c'est aussi la raison pour laquelle on vous a écrit pour mobiliser les jeunes à sortir massivement pour nous porter. Voilà.
Et on espère qu'ils sortiront massivement.
Ah, sinon, comme je l'ai dit, on ira les chercher.
Sinon, on ira les chercher.
Voilà.
Et avec ça, ils ne sont pas convaincus. Oui, moi, je ne sais plus quoi dire.
Ben, quand je dis on ira les chercher, je précise, ça sera aller les chercher en chant et en danse. Ah.
Et en parlant de chant et de danse, j'ai vu aussi, j'ai appris que vous aviez un label culturel et artistique qui s'appelle Tilibora Prod, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des artistes que vous produisez du coup dans ce label qui vont participer au festival ?
Oui, les artistes ont déjà participé. Donc cette année, c'est porte ouverte à d'autres artistes aussi. Parce que comme je le dis, ça va faire la 10e édition. Et chaque année est une nouveauté. Donc on ne met pas les mêmes personnes. Donc, dans notre catalogue, non, il n'y a pas des artistes qui vont se produire pour la 10e édition. Mmh. C'est que des nouveaux. Voilà. Mais ils ont déjà eu l'occasion de jouer. Et moi-même, j'ai joué avec la plupart de mes projets déjà pour le festival.
Et tout à l'heure, vous évoquiez les projets de l'association, du festival, etc. Il me semble que ça sert en partie à financer des voyages humanitaires au Burkina Faso, c'est ça ?
Alors, donc, nous avons une association principale qui s'appelle CINZOA. C'est notre association mère. Ensuite, nous avons l'association Tilibora. Et à côté, nous avons l'association ZONFA. Et toutes les trois associations co-organisent ensemble et mettent de côté pour soutenir des projets humanitaires et sociaux au Burkina Faso, au Mali et au Togo. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous décrire potentiellement, si vous savez, les actions qui sont mises en place ?
Bien sûr que je le sais, puisque ça fait des années que j'ai les pieds dedans. Donc, nous avons plusieurs actions. Nous soutenons des jeunes filles mères qui sont rejetées parce qu'elles ont eu des bébés hors mariage. Et on est en Afrique, c'est comme 50 ans en arrière ici, où c'est un peu tabou. Il faut être marié pour honorer la famille. Donc, nous soutenons ces femmes-là pour éviter qu'elles abandonnent tout simplement les enfants. Donc, on propose des stages pratiques et manuels pour qu'elles puissent avoir un métier, se nourrir l'enfant et pouvoir le garder pour ne pas l'abandonner surtout. Ça, c'est notre premier projet. Ensuite, nous soutenons les enfants pour l'aide à la scolarisation, achat de fournitures, l'aide à la cantine. Et d'ailleurs, décembre et janvier, nous avons organisé un voyage humanitaire au Burkina Faso et il y avait 5 adhérents qui ont pu réaliser le voyage avec nous et qui ont vécu, je dirais, des moments intenses sur place. Vraiment beaucoup d'émotions. Et ensuite, nous soutenons aussi des familles qui sont frappées par le djihadisme, parce qu'il faut dire que les pays comme le Burkina Faso connaissent le djihadisme. Et donc, au nord et à l'est, il y a des villages qui sont touchés et des gens qui fuient pour sauver leur vie, qui arrivent en ville et qui ne connaissent pas des gens et qui ne savent pas comment manger, comment dormir et qui, des fois, sont même malades. Et quand je dis malade, pas seulement dans le corps, mais aussi dans la tête, parce que c'est un traumatisme. Donc notre association, à notre petite échelle, comme on peut, eh ben, on soutient aussi ces gens qui débarquent et qui ont besoin d'aide. Et notre dernier projet, c'est de soutenir les jeunes artistes talentueux. Parce que, là encore, une fois, on est en Afrique et que des fois, on pense que Un enfant qui dit « je souhaite être artiste », c'est vu comme un vagabondage, parce que l'artistique, ça doit être juste une passion. L'enfant devrait dire « je souhaite être médecin ». Et donc, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut vivre de notre art, puisque ben, c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Donc, je soutiens, donc l'association m'a suivi aussi. Et nous soutenons donc ces jeunes artistes talentueux pour dire « c'est possible ». Il faut croire en votre rêve. Voilà donc les projets. Voilà.
Donc, en assistant, en venant au festival, on participe un peu, on peut soutenir tous ces projets.
Tout à fait. Alors donc, notre association ne bénéficie pas encore d'aide pour nos projets. Donc, c'est dans nos organisations, à nos trois associations, que nous essayons de mettre à côté un peu pour nos projets. Ça peut venir de l'organisation de concerts, de spectacles, d'ateliers, un milieu scolaire ou auprès de personnes âgées ou personnes à mobilité réduite. Mais ça peut aussi venir des stages. Donc ça arrive qu'on donne des stages de danse, de percussion, des ateliers en fait de cuisine africaine, des caterings comme on dit. Donc nos fonds viennent de là. On n'a pas encore un soutien financier. Donc, c'est sûr que dans un concert comme Tilly Bora, si quelqu'un paye une entrée et souhaite mettre dans une cagnotte pour soutenir le projet, oui, ça sera avec plaisir. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pensé à lancer une cagnotte. Hein.
Peut-être que ça se fera potentiellement.
Oui. Bon, parce que aussi il y a tellement de projets, tellement de demandes, et donc on se dit, on y va mollo à notre petite échelle. Et puis il faut aussi vivre la chose pour soutenir. C'est pour ça aussi qu'on amène des gens en voyage pour vivre sur place, pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il suffit pas juste de donner de l'argent. Faut faire le déplacement. Il faut que ça soit palpable. Il faut comprendre les mots sur place.
Et juste pour revenir sur le festival, vous avez dit que ce serait la dernière, enfin que c'est la dernière édition, c'est ça ?
Oui, parce que 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois. Ça demande beaucoup de temps, de l'énergie. Et je pense que nous avons donné, quand je dis nous, c'est l'association, les bénévoles, les membres de l'association, mais surtout moi, apporter le projet, c'est bien, mais c'est difficile. Et comme je suis jeune maman aussi, ça demande vraiment beaucoup de temps. Alors, on arrive à un moment où je me dis, ça serait bien de clôturer sur la 10e année, fêter le Pays Gallo. C'est l'occasion pour moi également de profiter de cette soirée pour rendre hommage à mon frère aîné qui nous a quittés en 2020, en invitant mon neveu à jouer sur scène donc le 1er mars pour honorer son papa. Donc, je pense que c'est une belle touche. Un super hommage. Et donc, du coup, ça va me faire ouvrir une nouvelle page avec toujours l'équipe de l'association pour proposer de nouveaux projets. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert le domaine breton il n'y a pas longtemps et je souhaiterais organiser pas mal de choses dans l'afro-breton, dans l'afro-braise. C'est un rêve qui est devenue réalité quand j'ai eu l'opportunité de jouer avec mon projet à Yaouank, et qui a eu beaucoup de succès. Ça s'appelle Brescalon. Donc, pourquoi pas.
Merci beaucoup. Et si des auditeurs ou auditrices sont intéressés, comment est-ce qu'ils et elles font pour avoir des billets ou pour participer au festival ou à
l'association. Super. La bonne nouvelle, c'est que l'association a eu l'opportunité d'avoir une jeune volontaire en service civique qui est super. Elle s'appelle Anna Sourima et elle fait un travail formidable. Et c'est elle qui est derrière l'écran, qui répond aux gens, qui fait la bonne com et la diffusion. Donc, toute personne qui écrit un mail à l'association, je pense qu'elle se ferait le plaisir de donner tous les détails qu'il faut pour arriver à notre festival. Sinon, les tickets seront sur place aussi.
Ok, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Vous voyez comment je parle beaucoup. Je pensais qu'on pouvait continuer.
Il faudra revenir sur Scilab pour vos prochains projets pour nous.
C'est
pour
vrai. Nous maintenant, que je vois qu'il y a une facilité pour nous accueillir, je crois que je n'hésiterai pas.
Avec
et
plaisir.
Je suis ici et c'est grâce à Anna qui vous a écrit.
Oui.
Sinon, je pense que je n'aurais pas osé.
Bah si, il faut oser.
Ben, voilà. Merci en tout cas pour l'opportunité.
Avec plaisir.
Et puis ben, bravo pour tout ce que vous faites.
C'est gentil.
Courage les jeunes.
Bon festival à vous et puis oui, à bon très bientôt.
Festival. Alors, bon festival projets. C'est bien, mais ce qui serait mieux, venez vous trémousser avec
venez.
Nous. Parce que ça me ferait plaisir de vous faire dégraisser
yes.
ce week-end.
On a hâte.
Merci.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique littérature, c'est Apocalypse Mémé avec Aglaé.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Apocalypse Mémé. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Ah ça y est, elle chante maman.
Ça vous dit quelque chose ou pas?
Oui.
Oui, Lerita Mitsuko. Effectivement, c'est ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de musique. Ça, ce sera dans deux semaines avec la chronique d'Eva. Pour le moment, je veux vous parler de l'amour. Alors, même si effectivement, la Saint-Valentin, cette fameuse fête célébrant l'amour, mais aussi et surtout le capitalisme, est passée depuis plus de 10 jours. Enfin, si ça, c'est pas un thème apocalyptique, je ne sais pas ce que c'est. Entre les ruptures, les tromperies, les amours impossibles, tristesse et désespoir. Et si pour vous, l'amour n'est pas un thème apocalyptique, tant mieux pour vous et pourvu que ça dure.
Je te sens pas en grande forme, Aglaé.
Si, parfaitement.
On en parle après ta chronique.
Bref, je ne vous apprends rien. L'amour est un thème qui a été abordé en long et en large et en travers dans les arts, comme dans la peinture par exemple, avec les amants de Magritte, dans la joaillerie, et je vous dis pas le nombre de collections qu'il y a avec Love dans le nom, dans les films, avec par exemple Eternal Sunshine of a Spotless Mind, film que je n'ai pas encore vu, mais je vais le faire incessamment sous peu.
Tu nous parles que de choses que t'as pas vues.
Non, si, vous inquiétez pas. Je vais vous parler de livres que j'ai lus, par contre.
Ah.
Ouf. Et, ou encore, du coup, dans la littérature, et non, je ne vais pas vous parler de Roméo et Juliette. Bref, pendant l'Antiquité, on se racontait et on écrivait déjà des histoires d'amour, qu'elles se finissent bien ou pas, comme le mythe d'Orphée et d'Eurydice. En gros, c'est l'histoire du couple que forment Eurydice, une nymphe, et Orphée, un héros grec, qui a reçu de multiples dons par Apollon. Tous deux sont éperdument amoureux, mais ça va pas durer longtemps. Le jour de leur noces, Eurydice est poursuivie par Aristée, un dieu dit mineur, mais qui se croit tout permis. En tentant de fuir, elle marche sur un serpent qui la mord et la tue. Directement.
Nice.
Orphée se met alors en tête d'aller la chercher aux enfers et la ramener. Et il y arrive sans aucune difficulté grâce à ses talents de musicien. Même Hadès, le maître des enfers, accepte de laisser partir Eurydice, mais à une condition, qu'Orphée ne se retourne à aucun moment vers elle avant qu'elle soit complètement sortie. Ils partent donc, patati et patata, et alors qu'Orphée voit la lumière du jour, il oublie son marché avec le dieu et se retourne vers sa bien-aimée, qui aussitôt est engouffrée. Coup dur pour Orphée qui ne s'en remettra jamais. Mais il y a une histoire de la mythologie grecque dans un roman tout à fait contemporain dont je voulais vous parler. Le livre en question, Le Chant d'Achille, publié en 2011 et écrit par Madeleine Miller. Achille, c'est un héros grec. Il a fait la guerre de Troie et pour lui, ça s'est pas vraiment bien terminé. Déjà parce qu'il est mort, tué par une flèche tirée par Paris, guidée par Apollon vers son seul point faible, aka son talon. Mais aussi parce qu'il a perdu son meilleur ami, Patrocle, tué sur le champ de bataille par Hector. Enfin, meilleur pote, ça, c'est ce que disent bon nombre de gens sur les forums, mais aussi des profs de littérature qui préfèrent ignorer les marques d'affection entre les deux compagnons. Madeleine Miller a donc décidé de prendre le contre-pied et d'écrire leur histoire d'amour de façon claire. Voici un extrait qui intervient juste après qu'Achille ait appris la mort de Patrocle. Attention, séquence émotion.
Patrocle, dit-il, Patrocle. Patrocle, répétant sans cesse mon nom jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un son indistinct. Quelque part, Ulysse est agenouillé et le presse de boire et de manger. Soudain, saisi d'une rage féroce, Achille voit rouge et le tue presque sur place. Mais pour cela, il faudrait d'abord qu'il me lâche. Il ne peut pas. Il me tient tellement serré contre lui que je sens le battement de son cœur, aussi léger que les ailes d'un papillon de nuit. C'est un écho, le dernier fragment d'esprit, encore rattaché à mon corps. Un supplice.
Ce livre a failli me faire décrocher une larmichette, mais si vous êtes fan de mythologie, je vous le conseille fortement. Maintenant, je vais vous parler d'un roman d'Haruki Murakami qui m'a mis une petite claque en le lisant, comme beaucoup des livres de l'auteur d'ailleurs. Il s'agit des Amants du Spoutnik. Pour résumer, je peux dire que c'est un triangle amoureux parti en steak. En gros, K, le narrateur, est amoureux de Sumire. Mais Sumire, elle le considère juste comme un très bon pote. Elle, elle est amoureuse de Miu, une grande dame de 17 ans son aînée. Un beau jour, Miu et Sumire partent en Grèce, sauf qu'un truc arrive à Sumire. Et je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais tout vous spoiler, donc voici juste un extrait.
Je mesurais à nouveau l'importance que Sumire avait eue dans ma vie, et à quel point elle était irremplaçable. À sa façon, elle m'avait aidée à demeurer reliée au monde. Quand je parlais avec elle, ou quand je lisais ce qu'elle écrivait, ma conscience s'élargissait lentement, je voyais apparaître des scènes que je n'avais encore jamais contemplées. Mon esprit et le sien se comprenaient instantanément. Comme un jeune couple ordinaire se déshabillant ensemble, Sumire et moi, nous étions montrés l'un à l'autre, l'intérieur de nos cœurs. En un autre lieu, avec un autre partenaire, pareille expérience aurait été impossible. Et sans nous l'être jamais avoué, nous chérissions tous deux ces moments.
C'est mignon quand même. Et si vous le lisez, vous verrez bien la fin de l'histoire, et je vous le conseille car le livre est vraiment chouette. La façon d'écrire de Murakami nous transporte vraiment dans un autre monde. Et pourquoi pas maintenant parler d'un des rares livres qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Alors sortez vos mouchoirs pour la deuxième séquence émotion. Le livre en question est L'écume des jours de Boris Vian. Pour ce roman slash conte, je ne peux pas vous le résumer. Je vais vous laisser le soin de le lire. Personnellement, il fait partie de mes livres préférés. Il est merveilleusement bizarre tout en étant ancré dans son époque. J'ai oublié de le préciser, mais il a été publié en 1947. Il aborde plusieurs thèmes comme le travail, la maladie, l'amour et d'autres. Raymond Queneau, romancier et poète français, a dit sur son compte que c'est le plus poignant des romans d'amour contemporains. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il ne parle pas d'une, mais de deux histoires d'amour. La principale étant celle d'un certain Chloé. Non, d'un certain Colin et d'une certaine Chloé. Voilà un extrait se déroulant lors de leur premier rencontre.
Bonjour. Chloé était arrivée par derrière. Il retira vite son gant, s'empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit « Oui !» et lui serra la main. Elle riait. « Vous avez l'air bien embarrassée. » Un manteau de fourrure à longs poils, de la couleur de ses cheveux et une toque en fourrure aussi, et de petites bottes courtes et de petites bottes courtes à revers de fourrure. Elle prit Colin par le bras. « Offrez-moi le bras, vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. » « Ça allait mieux la dernière fois, avoua Colin. » Elle rit encore, et le regarda et rit de nouveau encore mieux. « Vous vous moquez de moi, » dit Colin, piteux. « C'est pas charitable. Vous êtes content de me voir ?» dit Chloé. « Oui, » dit Colin. Ils marchaient, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air et s'approchait d'eux. « J'y vais, » proposa-t-il. « Vas-y, » dit Colin. Et le nuage les enveloppa. À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle.
En voilà un extrait bien mignon avec un nuage qui sent le sucre à la cannelle carrément. Colin et Chloé se sont vraiment bien trouvés. Bref, n'hésitez pas à lire ce pur chef-d'œuvre. Et n'hésitez surtout pas non plus à nous raconter vos histoires de cœur dans notre répondeur.
Yeah.
C'était Apocalypse Mémé, votre chronique littéraire apocalyptique à retrouver une fois par mois. Et merci encore à Cyriane pour sa très bonne lecture.
Merci Aglaé. En parlant de répondeur...
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Pas de message ce soir, mais si comme l'a suggéré Aglaé, vous avez envie de nous raconter une histoire d'amour ou autre, hein.
Oui,
ça
ou
peut
autre.
Être,
tout.
On veut tout. Tout. Voilà. Racontez-nous tout, un retour sur nos reportages, sur nos interviews.
Une blague.
On est vraiment des super bonnes journalistes. Une blague, whatever. Le numéro, c'est 02 30 96 25 35. Et avant de terminer cette émission, un petit mot pour vous dire que Syllab vous offre des places pour un spectacle au Triangle. Ça s'appelle Infinité d'Ivan Alexandre. Ça se passe le jeudi 13 mars prochain à 20h. Au Triangle, donc. Un spectacle de danse of course. Pour jouer et pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est, puisque le spectacle en est rempli, la tendresse. Ah, vous ne l'avez pas encore mémorisé. Hein.
Ouais, pas encore.
Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Marilyn pour la technique et à demain.
Radio Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.